création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Quand Agnès Jaufré se livre, dans un entretien qui ressemble à un échange courtois entre deux connaissances de longue date, les questions sont fluides autant que les réponses. Mais ce qui surgit, ce sont des images dignes des légendes. Des voix de criminels glissées dans des comptines, des monstres dissimulés, des supplices raffinés. Comme une succession de poupées russes, ces réponses distillent peu à peu un venin fascinant. Ouvrons les oreilles à ces voix qui disent « le monde d'une créatrice ». Les fables ineffables, par Agnès Jaufré et Lionel Quentin, une commande du Centre national des arts plastiques et de France Culture pour l'atelier de création radiophonique ACR.
Bonsoir. L'entretien que vous allez entendre est un échange entre Vanessa Desclos, commissaire d'exposition, et moi-même, Agnès Jaufré, artiste. Il a été réalisé dans mon appartement.
Agnès, tu m'as souvent fait part d'une peur, d'avoir les yeux crevés. Alors cette peur, à la fois, elle semble étrange et infondée, comme beaucoup de peurs archaïques qui émanent de légendes, de sources obscures, à la fois infondée, mais en même temps, elle est très présente dans ton travail et je peux la relier assez facilement à différentes pièces qui ont jalonné ton œuvre. Je pense à des séries photographiques comme Nights, où dans l'obscurité, on voit des personnages avec des yeux opalescents. Mais au-delà de reconnaître des affinités entre cette peur et des aspects de ton travail, j'ai été très surprise quand j'ai appris, et je pense que c'est pas toi qui me l'as raconté, alors je sais plus dans quelles circonstances on m'a raconté cette histoire, mais on m'a dit que tu avais un oncle, un jeune oncle, qui, avec sa fiancée, avait commis un crime assez effrayant. Il s'était introduit dans la maison d'une voisine, une vieille femme, pour la cambrioler. Mais ils avaient fait quelque chose de vraiment très étrange. Ils étaient venus avec des bouteilles d'alcool, ils avaient essayé de la saouler. Et voyant que cette vieille femme résistait à l'alcool, ne voulait pas boire, ne se laissait pas séduire, en fait, elle leur aurait dit une phrase assez incroyable. « Je vous ai à l'œil et croyez-moi, je vous ai bien photographié. » Alors ce qu'on m'a dit, et je crois qu'il y a des faits divers qui corroborent ce récit, c'est que ton oncle s'est mis dans une rage incroyable, lui a fracassé le crâne, et que son ami, de son côté, a crevé les yeux de cette femme avec une précision incroyable, en perçant le centre de l'iris. Et on pourrait penser que la raison pour laquelle elle avait crevé les yeux de cette femme, c'était par peur qu'en se réveillant, la femme puisse la reconnaître. Alors c'est vraiment une histoire terrible et du coup je profite de cette discussion. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu comment tu as appris cette histoire et quel rôle elle a joué dans ton travail.
Oui, c'est un fait familial dont je parle peu et pourtant je pense en effet qu'il a vraiment dû marquer mon travail de façon significative. Même si on me l'a révélé finalement très tardivement. Et c'est étrange parce qu'en même temps, ça me rappelle que petite, alors que je connaissais pas encore cette histoire, je croyais que ma mère pouvait lire mes mauvaises pensées dans mon regard. Et naïvement, petite, je fermais alors immédiatement les yeux.
C'est drôle. En fait, ça nous rappelle cette légende des yeux qui serait un peu le miroir de l'âme. Mais ça me fait aussi penser à cette idée de sorte de vision photographique, des yeux photographiques qui seraient comme un outil d'enregistrement. En fait, je crois que c'est une croyance pseudo-scientifique du 19e siècle. Le terme qu'on a utilisé, c'est l'optogramme. Il me semble d'ailleurs que c'est que Jules Verne y fait référence dans un de ses romans qui s'appelle Les Frères Kip. Et en fait, cette légende de l'optogramme, ça prétend qu'il y aurait une dernière image qui impressionnerait la rétine au moment de la mort et permettrait, en cas d'homicide, de recueillir l'image de l'assassin et de pouvoir identifier le criminel au fond de l'œil de la victime. Et même ce sujet, cette pseudo-croyance, a passionné un certain nombre de médecins. Et j'ai lu qu'un certain docteur Vernois avait présenté des recherches dans la revue photographique des hôpitaux de Paris à la fin du 19e siècle. Et il y rapportait notamment la méthode préconisée par un certain docteur Bourion. Il s'agissait de photographier le globe oculaire dégagé de son orbite et débarrassé de son cristallin pour pouvoir l'interpréter. Cette méthode, elle a même été utilisée apparemment par ce docteur pour obtenir un cliché pris sur la rétine d'une femme assassinée en 1868. Et selon ses interprétations, on pouvait y voir le moment exact où l'assassin, après avoir frappé la mère, tue l'enfant et le chien de la maison qui se précipite vers la malheureuse petite victime. C'est quand même extrêmement étrange que cette croyance ait même donné lieu à une sorte d'article scientifique dans une revue photographique. J'ai trouvé ça passionnant et je me disais que ça pourrait t'intéresser. J'ai pas retrouvé l'article en question, mais je te promets que je chercherai un peu plus. Et du coup, cette croyance, elle était suffisamment répandue à la fin du 19e siècle pour que des assassins crèvent les yeux de leurs victimes ou les énuclent afin de prélever cette dernière image, laissant alors un trou béant dans les yeux de leurs victimes.
Oui, moi aussi j'ai eu connaissance, je sais pas, il y a quelques années de cette croyance fantasmée. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours eu une peur fantasme des yeux crevés, la peur d'être privée d'image. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été entourée d'histoires liées à cette peur. Et même très récemment, j'ai un ami psychanalyste qui a évoqué une pratique récurrente chez les schizophrènes, ce que je savais pas du tout, la pratique de l'énucléation sur les autres, mais aussi sur eux-mêmes. Comme si notre propre regard, mais aussi celui des autres, devenait insupportable. Mais pareillement, plus proche de moi, ma mère souffre d'une dégénérescence maculaire, ce qui consiste en fait à perdre son centre de vision, qui est aujourd'hui remplacé par une immense tache noire qui grossit de plus en plus, malheureusement pour elle. Et ce qui fait qu'en fait, elle a perdu le centre de vision, elle ne voit plus qu'en périphérie, ce qui fait qu'elle devine plus qu'elle ne voit. Mais c'est marrant, tu parlais de ces croyances, de tout ça, ces rumeurs. Et longtemps, j'ai gardé un bout d'article qui relatait un fait divers aussi incroyable. Et bon, je m'en souviens assez bien parce que j'en avais fait un travail après. Et l'intitulé exact de cette brève trouvée dans un journal était celui-ci. Paul Verdier a été trouvé mort à son domicile, gisant sur le sol de son palier. Il a été victime d'une blessure par balle dans l'œil gauche. Le tueur a vraisemblablement tiré à travers le judas de la porte d'entrée. Tout porte à croire que Paul Verdier a été confondu avec un homonyme. C'est incroyable, et ce que je trouve fascinant, c'est cette espèce de double perforation oculaire de l'œil de bœuf de la porte d'entrée jusqu'à l'œil de la victime. Et d'ailleurs, en passant, ces intitulés, je les trouve assez, assez drôles, œil de bœuf, Judas, bon, ils sont assez significatifs. Enfin bref, mais il y a surtout ce qui a marqué un tournant un peu dans mon travail d'ailleurs, c'est qu'il y a quelques années, j'ai retrouvé en fouillant dans les archives familiales une photo de classe de lycée. Et j'ai été amusée et en même temps complètement effrayée de constater que j'avais percé les yeux d'un garçon que je détestais à l'époque. Et ceci probablement à l'aide d'une épingle. Donc maintenant, avec le recul de ce fait familial que tu as évoqué tout à l'heure, ça me fait encore plus froid dans le dos.
Et c'est vrai que le fait divers, dans sa forme, est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ton travail. On a l'impression qu'il y a une sorte de fascination. Alors, une fascination pour ces récits qui allient à la fois quelque chose de banal et en même temps de monstrueux, qui sondent les bas-fonds de l'âme humaine. Alors, c'est vrai que je me demande, en fait, qu'est-ce qui se joue, en fait, dans cette fascination pour les faits divers? Est-ce que c'est ce rapport entre plaisir et déplaisir qui a à la fois à avoir une sorte de curiosité un petit peu malsaine pour la vie des gens dans son côté le plus obscur, et finalement de pouvoir s'adonner à ce plaisir-déplaisir sans être complètement concerné, en restant dehors, spectateur, lecteur?
Oui, c'est exactement ça, c'est cette incarnation du jeu, ce besoin d'être dans la peau d'un autre. Je sais pas d'où elle les tenait, mais en fait, ma enfant, ma sœur, me chantait des berceuses absurdes et cruelles avant de m'endormir. Et elle me les chantait tout doucement au creux de l'oreille. Et ces comptines chantées à la première personne renvoient justement à cette personnification du monstrueux. Je m'en souviens de quelques-unes, je peux te les chanter si tu veux.
Avec plaisir.
À ma tendre fiancée, un beau jour j'ai acheté un magnifique collier, elle ne pouvait s'en séparer. Lentement je l'ai engraissé, elle en est morte étranglée. Quelques centaines de doigts ont été trouvés chez moi, j'en fais la collection depuis que je suis nourrisson. Me demandez pas pourquoi, la réponse je ne la sais pas, je n'apprécie que les majeurs mis au congélateur. Bien rangés, bien empilés, il reste mes seuls trophées, quant à leur propriétaire, il leur reste l'annulaire. Marie-Jeanne la cruelle, c'est ainsi qu'on m'appelle. Tout juste sortie du berceau, je suis manier le couteau de mon père le boucher. J'ai appris le métier à vouloir me défleurer. Plusieurs y perdirent leur nez. Vous pouvez me condamner, mais je garde ma virginité. Marie-Jeanne la pucelle, ainsi restera-t-elle. Mes trois sœurs, on a trouvé les cheveux tout emmêlés. Longtemps on m'a accusé de les avoir attachés. Je me suis juste contentée toute une nuit de les effrayer. D'effroi, elles se sont mêlées, on a dû leurs cheveux couper. Depuis lors, elles sont rasées, leurs cheveux n'ont jamais repoussé. Quant à moi, on m'a enfermée pour une telle cruauté. On a retrouvé un bout, un deuxième, puis un troisième. J'ai la manie de découper ceux qui me passent à côté. Peu importe leur physique, je n'ai pas le sens critique. Ce que j'aime, c'est trancher. Toute ma famille est passée. Parce que je l'ai trop aimé, parce que je l'ai trop aimé, la tête va m'être tranchée. Juste réponse à ce qu'on dit, pour ce qu'on trouve à sous mon lit. À trop regarder son visage, à trop regarder son visage, j'ai voulu garder son image. La tête de mon bien-aimé, hier soir j'ai tailladé. Chaque soir je la regardais, chaque soir je la regardais, cette tête que j'adorais. Et de la mienne vous ferez ce que bon vous voudrez.
Dans les comptines que tu viens de chanter, il y a cette dimension intime du récit, elle permet l'identification. Et elle nous donne finalement un accès privilégié à l'histoire, à sa restitution. Il y a une forme de proximité qui se met en place avec les personnages, même si on peut dire qu'ils restent néanmoins étranges. Et je me rends compte que c'est quelque chose qu'on cherche assez systématiquement, cette identification en particulier avec les prénoms. Moi, c'est vrai que par curiosité, un jour, j'ai cherché l'étymologie de mon prénom, Vanessa, et j'ai voulu savoir d'où ça venait finalement, à quelle époque, est-ce que c'était un prénom qui avait été porté par un saint, ou au contraire est-ce que c'était un prénom qui avait été inventé d'une autre manière. Et j'ai découvert que c'est un écrivain, c'est l'écrivain anglais Jonathan Swift qui l'a inventé, et il l'a inventé d'une manière assez drôle. En fait, il avait une amie qui s'appelle Esther Von Omrig, et à partir du nom de cette amie, il a utilisé le début de son nom de famille, Van, et le diminutif de son prénom. Donc le diminutif d'Esther, c'était apparemment Essa. Donc ça a donné Vanessa, et il a inventé ce prénom pour un de ses romans, Cadenus et Vanessa. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez plaisant de savoir que mon prénom, le prénom que je portais, avait été inventé par un écrivain et pour créer un personnage de roman. Mais il y a une autre étymologie que j'ai trouvée pour Vanessa, qui est la plus classique. En fait, ça viendrait de la forme normande du prénom Véronique, Vénis, qui veut dire aussi la vera icona en latin, la vraie image. Donc Sainte Véronique, dans la Bible, c'est celle qui a essuyé le visage de Jésus pendant la Passion, recueillant ainsi la sainte face sur son linge. Donc c'est devenu, et ça je trouve ça plutôt amusant par rapport à ton travail, Sainte Véronique, donc Véronique Vanessa, est la sainte patronne à la fois des lingères et des photographes. Je trouve ça plutôt drôle.
C'est plutôt drôle. Ben moi, c'est pareil. En fait, adolescente, je me suis prise de passion pour la vie de Sainte Agnès. Et j'adorais lire les différentes versions qui ont été faites de sa courte vie, parce qu'elle est morte très jeune, en martyr, comparer toutes ces différences, répertorier tous les supplices qu'elle avait pu endurer, et qui devenaient à chaque fois de plus en plus abominables, d'ailleurs, de récit en récit. Et quelque part, je crois que j'adorais trembler à ses lectures et je compatissais pour cette pauvre Agnès.
Vierge et martyre à Rome au IVe siècle de notre ère. Conduite devant le préfet de Rome, elle refusa de sacrifier aux idoles en dépit des promesses et des menaces et fut décapitée. Ô petit mystère et curiosité, édition Petit écho de la mode, Paris, 1933. Voici l'épouse de l'agneau de Dieu qui se moque des caresses et des menaces du tyran pour conserver son corps et son cœur à Jésus son époux. Les anges l'accompagnent dans un lieu infâme et ils font mourir l'insolent qui lui veut ravir l'honneur, mais elle lui rend la vie et le convertit à la foi. On la jette dans le feu, mais il épargne cette vierge et fait mourir les bourreaux. Elle meurt enfin, l'an 304, parce qu'elle commande à l'épée du soldat de séparer son âme de son corps. Le journal des saints où sont représentées leurs images avec un abrégé de leur vie et une méditation pour chaque jour de l'année, édition Ruzan, Lyon, 1828. Il est certain qu'il y eut à Rome entre 250 et 306 une fillette de 13 ans qui mourut volontairement pour la foi. La nouvelle s'en répandit aussitôt chez tous les chrétiens de l'Empire. On s'indigna de la cruauté des bourreaux, on s'apitoya sur la tendre victime, on fut fier de son courage et Agnès devint un personnage légendaire. Arrêtée, Agnès fut mise en demeure de sacrifier aux dieux. Comme rien ne pouvait la faire fléchir, on l'attacha au poteau, puis on lui laboura les chairs avec des ongles de fer. Les assistants pleuraient. Elle, au contraire, ne cessait de manifester sa joie. Pour la délivrer, des jeunes gens se présentèrent, s'offrant de l'épouser. « C'est faire injure à mon fiancé céleste, répondit-elle, que d'espérer me plaire. Celui-là m'aura pour sienne qui le premier m'a choisi. Pourquoi, bourreau, tous ces retards? Que périsse ce corps qui peut plaire à d'autres que mon bien-aimé. » Et le bourreau lui tranche la tête. Les saints protecteurs de France, édition Gallimard, Paris, 1940. Vierge et martyr de Salerne en Campanie. Le fils du proconsul romain tombe amoureux d'elle, mais elle les conduit en chantant les louanges de son époux céleste Jésus-Christ. Le proconsul, irrité, la met en demeure, si elle désire rester vierge, de se consacrer à la déesse romaine Vesta. Sinon, elle sera exposée dans un lieu de prostitution. Agnès refuse de sacrifier aux dieux païens. Exposée nue, Agnès voit ses cheveux pousser si épais qu'ils la couvrent entièrement. Un ange lui apporte des vêtements d'une blancheur éblouissante et tout le mauvais lieu en est purifié. Il a envoyé ses amis au lieu infâme pour y assouvir leurs désirs sur la jeune fille et ils sont touchés par la grâce. Furieux, le garçon les rejoint et se jette sur Agnès, mais dès qu'il la touche, il est égorgé par le diable. Elle le ressuscite et le convertit. À l'instigation des prêtres païens, jaloux de ses pouvoirs, Agnès est jetée dans le feu qui ne la brûle pas, puis tuée d'un coup d'épée. Elle n'a que 13 ans. Dictionnaire des sujets mythologiques, bibliques, hagiographiques et historiques dans l'art, édition Brepol, 1994.
Oui, comme je te le disais, mon enfance a été baignée de contes cruels, dont un que j'aimais particulièrement, qui s'intitulait « La jeune fille qui tremble ». J'ai passé des heures et des heures allongée sur mon lit, entourée d'histoires, soit que je lisais, soit qu'on me racontait, soit que j'écoutais, soit que j'inventais. Et mon lit était mon espace privilégié. Je faisais rien, ou plutôt pas grand-chose sur ce lit, finalement. Je me laissais gagner par la paresse. Je crois qu'en fait, cet amour de la lenteur et de la paresse, je dois le tenir de mon grand-père. Mon grand-père est revenu sourd et muet de la Première Guerre mondiale. Et voilà, il est revenu silencieux et traumatisé de ce conflit. Le fait un peu étrange, c'est que, en fait, ne trouvant personne à épouser du fait de son handicap, on le maria à la bonne et il venait d'une famille assez aisée. Et il travaillait pas, il menait une vie de rentier et il dilapida toute la fortune familiale en fait. Et il passait ses journées lui aussi dans sa chambre, à lire, à dessiner, isolé dans un monde de silence où les paroles sont tues. D'ailleurs, les paroles tuent, cette phrase m'interpelle. Elle aussi, ça me fait toujours penser aux paroles assassines. Ou aux paroles tuées. Mais le grand silence dans lequel a vécu mon grand-père, je m'y suis sentie proche plus d'une fois. Et parfois, j'ai d'ailleurs l'impression d'entendre la voix, sa voix jeune et tourmentée, revenant du conflit, une espèce de voix de l'au-delà, où des mots s'échapperaient, lui qui pourtant était muet.
Je cherche tout ce qui rôde autour de moi. Une noirceur immense envahit tout. Elle me gagne. Elle se précipite. Je ne pourrai y échapper. Je cours et je tombe. Je peine à me relever. Mais au loin, j'entends le fracas qui vient. De loin, loin de là. Là où tout n'est que chaos. Des milliers d'hommes chevauchent jusqu'à nous, déplaçant une poussière funeste. Rien ne pourra en émerger, ni le silence, ni la paix, que la peur m'emporte. C'est tout ce qu'il y a à espérer. Refoule-le, foule-le, foule-le. Ne le laisse pas en proie à sa fureur, ni à ses tourments, ni à la tempête. Fuis-le, fuis-le. J'ai cru être emporté, j'ai cru m'effondrer. J'étais le seul survivant d'un territoire dévasté. Tout n'était que ruine. La boue envahit tout. J'étais perdu alors. Alors je réalisais que je montais le cheval d'un mort. Tout n'est qu'illusion. Tout est hallucination. Il se noie dans tes histoires. Vous écoutez de loin. Vous autres incrédules, tu mens. Ne me mens pas, je t'en prie, ne me mens pas. Je ne sais pas qu'elles sont déjà là. Elles sont nombreuses, elles attendent, sournoises, prêtes à t'encercler. Tu te défends mais rien n'y fait. Elles sont habiles, elles attendent. Elles répètent la même danse inlassablement. Elles dessinent des figures menaçantes. Elles sont là. J'entends le bourdonnement des milliers de mouches. Tu succombes au son entêtant des battements d'ailes. Tu chutes là, à demi-mort, sur le sol froid. Les mouches se dispersent, le bruit s'éteint. La fièvre tombe, la mort se fatigue. Tu demeures évanouie, doucement, loin du chaos. Bientôt tu te réveilleras et tu ne sauras que faire, perdu parmi l'immensité. Je ne suis pas celui que tu crois. Ne crois rien. Oublie-moi. Oublie-la. Il ne reste rien. Rien n'est arrivé. Rien ne s'est passé. Il faut tout oublier. J'ai oublié. Je vais droit devant sans te regarder, sans me retourner. Je fais silence. Supplier. Plier, plier, plier. En silence. Supplions-le de revenir. Il faut le revoir, il doit nous revenir. Sans lui, pas d'avenir. Plier devant un devenir amer. Supplions-le de revenir. Il faut le revoir, il doit nous revenir. Sans lui, pas d'avenir. Rien qu'un devenir amer. Ne nous emportons pas. Ne nous emportons pas. C'est une histoire de détails. Histoire d'une détailleuse. Elle fait des fragments de tout. Surtout, ne la croisez pas, évitez-la. Elle tranche, elle coupe, elle morcelle. Mais aujourd'hui, à la lumière du jour, alors que pointe l'aube blafarde, il ne reste rien auquel se raccrocher. Tout s'épuise autour de nous. Tu ne sais pas qu'elles sont déjà là. Elles sont nombreuses. Elles attendent. Elles sont noises, prêtes à t'encercler. Tu te défends, mais rien n'y fait. Elles répètent la même danse inlassablement et dessinent des figures menaçantes. Elles sont là. J'entends le bourdonnement des milliers de mouches. Mouchard, mouchard, mouchard. Je reste là et je me tais. On me l'a demandé. Je ne bouge pas. J'essaie d'être mort. Ma respiration ralentit. Mes membres déposés. Mes pensées endormies. Seul mon regard reste vif. J'épie. J'attends. J'épie et je me tais. Enfermé dans cette chambre, je scrute le dehors et l'horizon en attendant leur venue. Figé dans une attente immuable, j'attends assis devant la fenêtre. La fenêtre est une petite ouverture étroite et profonde, comme une niche qui renfermerait la relique. Abandonnez-moi là. Donnez-moi là. Donnez-moi. Donnez-la. Abandonnez-la aux regards incertains et torves. Ne plus parler et faire silence. Un son sourd qui me transperce comme une pointe acérée, qui glisse lentement et qui parcourt tout le corps, membre par membre, comme une couronne d'épines. Elle se démultiplie, elle m'envahit et me tourmente. Pointe par pointe, elle m'attaque et me transperce, mais rien ne me fera faiblir. Aucune peur. Seulement le vertige.
En fait, j'aime me taire. J'ai toujours aimé être silencieuse. Je suis une taiseuse. Et je pense que ma voix instable et raillée, qu'on dit si particulière, proviendrait justement que de cela. Et c'est une parole qui a du mal à se mettre en place, je crois, et où les mots peinent un peu à se dérouler, butent parfois, et comme si quelque chose était bloqué là.
C'est drôle parce que je sais pas si tu te souviens, mais la manière dont on s'est rencontrés, mais c'était à l'époque où je faisais des recherches pour un projet d'exposition sur le bégaiement. Et c'est intéressant là que tu parles de ce langage bloqué. Ça me fait penser à un trouble qui concerne particulièrement les enfants et les adolescents qui s'appelle en termes médicaux aphasia voluntaria, c'est-à-dire en fait une aphasie volontaire, une décision vraiment de se taire. Souvent par colère contenue ou à la suite d'un traumatisme ou d'une forme d'anxiété sociale très, très, très forte. Et ces enfants et ces adolescents, en tout cas, ce que j'ai pu lire sur le sujet, souvent décident de ne pas parler et utilisent d'autres formes de communication, en particulier d'écrire sur des carnets, des bouts de papier. Et parfois, ils cessent aussi toute forme de communication. Et il y a des enfants qui décident, en fait, d'être muets dans certains contextes et pas dans d'autres. On appelle ça electiver mutismus, une sorte de mutisme électif. Alors on est proche, hein, c'est de cette idée d'aphasie volontaire. C'est vrai que ces termes, en plus, ils sont assez poétiques. Moi, c'est aussi quelque chose que j'aimais beaucoup, même le terme de bégaiement et la manière dont il a été, par exemple, utilisé par certains romanciers qui étaient eux-mêmes des bègues. Il y a quelque chose de finalement assez poétique dans ces termes médicaux et dans ces handicaps qui peuvent parfois avoir des utilisations littéraires et poétiques intéressantes. Ces enfants et ces adolescents qui décident de se taire en dehors de leur environnement familial, c'est vraiment une défiance vis-à-vis de l'inconnu, en fait, de la société. Souvent, ils deviennent incapables de parler dans un contexte public. Ils ne peuvent pas parler à l'école, ils ne peuvent pas parler dans un magasin, ils ne peuvent pas parler à des inconnus, alors qu'à la maison, ils sont néanmoins capables de s'exprimer avec les personnes dont ils sont proches. Et je lisais, et ça, je trouve que c'est intéressant pour nous ramener aussi à cette question du regard qui reste au centre de ton travail, ils trouvent des stratagèmes. Et donc, ils vont réussir à parler à quelqu'un à travers une paroi ou finalement comme quoi le langage aurait quand même à faire aussi avec le regard.
Ça me fait penser à je sais pas si tu connais le phénomène des chambres sourdes ou ce qu'on appelle les chambres anéchoïques. C'est aussi absolument fascinant. Ce sont des espaces élaborés par des milieux scientifiques. Et c'est des espaces qui sont sans écho et dont la configuration absorbe 99,9% du son. Et ce silence absolu est en fait difficilement supportable par l'homme. Il peut pas rester dans cet espace, on peut pas rester dans ces espaces plus d'une heure en fait. Parce que l'acuité auditive est telle que, en fait, on entend toute notre mécanique corporelle, c'est-à-dire les battements du cœur, l'air qui circule dans les poumons, les articulations qui bougent, les sons émis par la digestion. Je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais ça doit être assez incroyable comme sentiment. Et donc, voilà, en fait, ces sons émanant de soi deviennent vite insupportables. Et c'est là où c'est fascinant. C'est que justement apparaît alors des hallucinations auditives, comme si on avait besoin de recréer un extérieur à soi. Et par exemple, il y a des personnes qui sont restées enfermées dans ces espaces qui disaient entendre des nuées d'abeilles, le vent dans les arbres, des voix. En fait, on croit que le silence est un manque de langage, mais moi, je crois au contraire que le silence, c'est un créateur de langage. Cette expérience anéchoïque, justement, ce silence total et complet, profond, en est la preuve, où on a besoin de s'inventer des sons, des situations et des histoires.
Je voudrais qu'on revienne à ce conte que tu mentionnais tout à l'heure et que tu disais que tu aimais particulièrement. Parce qu'en fait, là aussi, dans ce conte qui s'appelle La jeune fille qui tremble, on voit comment la manière dont le corps prend le pas aussi sur l'esprit. Alors, peut-être qu'on pourrait l'écouter.
Cette histoire vous semblera être une fable, pourtant elle n'en est pas moins vraie. Je la tiens de ma mère qui aimait me la raconter. Il était une fois une jeune fille blonde et frêle qui, toute douce et délicate qu'elle était, n'en était pas moins obstinée. À la moindre contrariété, elle se mettait à trembler. Cela commençait comme un frémissement, les genoux imperceptiblement oscillaient, puis le tremblement montait. Il gagnait toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, le ventre, le buste, le cou, et de là se propageait dans tout le corps, du bout des doigts jusqu'au haut du crâne. « La jeune fille n'était plus qu'une forme longiligne et vibrante. Cela était fascinant à voir, ce corps juvénile, tremblant et palpitant, aux mouvements répétitifs dans une décomposition tout à la fois ralentie et hâtive, subjuguée et hypnotisée toutes les personnes situées à proximité. La beauté sans cesse grandissante de la jeune fille, les prétendants se pressèrent vite devant son logis. Elles les refusèrent tous un à un au grand désespoir de ses parents. Un jour, l'un d'entre eux frappa à la porte, pénétra dans la demeure et déversa quantité d'or et de bijoux. Devant ce soupirant particulièrement fortuné et devant l'insistance de ses parents dans le besoin, la jeune fille céda. Le mariage eut lieu peu de temps après, un mariage comme l'on n'en eut jamais vu dans la contrée. La mariée apparut diaphane toute de blanc vêtue, mais d'elle on ne voyait plus que les mouvements de sa robe vaporeuse et frissonnante sous l'effet des tremblements. Elle arrivait encore à se déplacer, semblant glisser et flotter au-dessus du sol, et parvint ainsi à se mouvoir jusqu'au cœur. Le bruissement des chuchotements de la foule l'accompagna tout au long de cette étrange progression. Arrivée là, elle dut être maintenue fermement par son père et ses trois frères, afin que son futur époux puisse lui glisser la bague au doigt, comme un douloureux présage de sa condition à venir. Depuis lors, elle ne cessa de trembler. Ce qui se manifestait auparavant à l'occasion d'un désagrément devint constant face à son désespoir. Elle fut vite incapable de ne rien faire. Elle ne broda plus. Elle ne lut plus, elle ne mangea plus, elle ne dormit plus. Elle tremblait, c'est tout. Elle trembla encore et encore. Dans l'impossibilité de s'arrêter, rapidement son état se détériora. Et d'épuisement un jour, elle s'effondra. Allongée sur son lit de mort, rien ne put la faire revenir parmi les siens. Il fut décidé de l'enterrer près d'un grand chêne où elle aimait se réfugier. On la descendit dans sa tombe, on la recouvrit de terre, et la parcelle entière du sol se mit alors à vibrer. Il se dit que la terre tremble encore.
En fait, avec ce conte, avec cette histoire de cette jeune fille qui tremble, on se rend compte qu'on est finalement de nouveau devant cet enfant mutique. C'est assez similaire aux enfants et aux adolescents que je mentionnais auparavant dans les cas d'aphasia volontaria et d'activer mutismus. C'est des enfants qui apparaissent à la fois comme obstinés et résistants. Il y a une désobéissance sociale qui s'exprime par le corps, une sorte de corps un peu en révolte, insoumis, qui s'extrait des convenances et des normes auxquelles on voudrait l'assujettir. Il me semble qu'il n'y a plus d'échappatoire, il reste le corps, un corps qui s'exprime quand tout langage n'est plus possible. Et alors bon, là on va parler d'une adulte, mais ma mère, elle était sujette à des sortes de malaises qu'on appelait des malaises vagaux. Alors, ces malaises vagaux, ils apparaissent souvent chez des gens qui ont une tension artérielle très basse et qui ont en même temps une tendance à s'énerver et du coup leur rythme cardiaque monte brutalement et c'est en fait finalement cette sorte de dépression que ça crée dans le corps qui va les emmener vers l'évanouissement. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir que ma mère tombait souvent dans les pommes. Alors, ma mère était une femme au foyer. Elle était aussi femme d'un officier militaire, mon père pilote de chasse, qui avait un métier très prenant. Du coup, il était souvent absent. Et elle avait, en plus d'être un peu, pas condamnée à la maison... Enfin, là, je parle un peu du point de... avec ma propre vision des choses. En plus d'avoir en charge le foyer pratiquement toute seule et trois enfants, elle avait aussi beaucoup d'obligations sociales dues au travail de mon père, des dîners, des cérémonies, tout un tas de choses. Et il lui est souvent arrivé de faire des syncopes en plein milieu de ces dîners. Alors, avec l'expérience, avec un travail qu'elle a fait à la fois avec des médecins, et elle a appris à reconnaître les symptômes de ces malaises, donc l'estomac qui serre, des bouffées de chaleur, et avant même que l'évanouissement arrive, donc elle s'allonge. Alors, mais du coup, elle peut s'allonger n'importe où. Donc elle s'allonge et ça lui permet de ne pas perdre connaissance. Mais ce qui me semble aujourd'hui, avec un peu de distance, c'est que ces syncopes, elles révèlent vraiment une sorte de désir irrépressible de s'échapper. Alors, là, la question de ce qui est volontaire ou ce qui ne l'est pas, je pense, c'est assez difficile à déterminer. Mais en tout cas, le corps crée une situation où il y a une sorte d'appel d'air, une sorte de voie, de ligne de fuite qui va permettre de s'échapper, de s'absenter en fait de la situation inconfortable. Et c'est vraiment le corps qui prend le dessus sur la volonté et qui refuse de se soumettre. Cette désobéissance, là encore, elle me semble, enfin, le terme de désobéissance me semble très important. Il révèle un rapport de pouvoir qui s'exerce de manière inégale. Et la syncope est une situation dans laquelle le sujet s'absente et qui apparaît aux yeux de ceux qui exercent le pouvoir comme un sujet à la fois faible, obstiné, désobéissant. Et c'est souvent les enfants et les femmes qu'on a considérés comme tels.
Ça me fait penser j'y reviendrai plus tard, à ces corps qu'on marque ou qui sont marqués ou qui ont des stigmates. Et... ça me rappelle que moi, adolescente, j'avais un petit ami qui m'avait mordu la lèvre violemment en m'embrassant, mais tellement fort que voilà, jusqu'au sang, quoi, j'avais saigné. Et très vite, ma lèvre inférieure est devenue boursouflée et violacée. Et bon, j'ai, à l'époque, j'avais absolument pas compris son geste. Je me l'expliquais un peu comme un acte d'amour enflammé, un désir parfois cannibale qu'on a vers l'autre, comme ça, vers l'être aimé. Et en fait, pas du tout. Un jour, j'ai compris, je me suis retrouvée en ville et j'ai croisé plusieurs jeunes filles à la lèvre déformée. Et bon, là, ça a été immédiat. J'ai compris alors que c'est une façon de marquer ses conquêtes, en fait, et de... comme des trophées. Et bon, j'étais horrifiée. Avant, finalement, ce qu'on marquait, c'était les infâmes, c'était les faibles, c'était les personnes en marge, les prostituées, les déserteurs, les lépreux, les vagabonds, enfin bref, toutes ces personnes marginalisées, quoi. Voilà, c'est au cours de mes recherches dans diverses archives que j'ai retrouvé plusieurs ordonnances royales du XVIIe et XVIIIe siècle qui condamnaient justement ces êtres marginaux. Ces ordonnances royales qui étaient proclamées sur la place publique par un crieur détaillent l'aspect de leurs vêtements ou de leur apparence physique pour les différencier de la population dite normalisée. Et d'ailleurs, ce qui est magnifique dans ces ordonnances, c'est que c'est la tournure du vieux français qui rend ces édits de loi, qui sont des paroles d'autorité finalement, paradoxalement poétiques.
Enjoignons à tous, vagabonds, filles débauchées, de vider la ville et les faubourgs dans les 24 heures après la publication de la présente ordonnance, sous peine d'emprisonnement et leur procès fait et parfait. Enjoignons aux bourgeois et habitants de cette ville et faubourg de prêter main forte aux officiers, même de saisir les contrevenants et les mener aux autorités, et qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance par la présente lue, écrié en ce jour. Nous ordonnons, voulons et entendons, si une personne est renommée d'être entachée de la maladie de lèpre, on lui devra bailler pour une fois s'ils ne sont du lieu. Un chapeau, un manteau blanc, une besace et une cliquette, et avec elle faire son service et produire son régulier pour informer de sa venue, afin que tout un chacun se détournasse de son chemin et que l'on fermasse portes et fenêtres sur son passage. Nous ordonnons dorénavant à toute femme se trouvant dans la dite ville, toutes celles qui y viendront après, qui sont et seront de vie joyeuse, et qui prêtent ou prêteront amour au détail, ne porteront nul manteau de drap depuis l'entrée du mois de mai jusqu'à la fin de la Toussaint, et qu'au cas où elles en porteraient, les 10 manteaux seront confisqués. Et que toutes les dites femmes porteront sur leur bras gauche, pour se différencier, entre l'épaule et le coude, un jarretier de couleur vermeil, d'une longueur de 2 doigts et long de 2 quartiers environ, cousu sur leur robe. Et au cas où elle serait trouvée sans le dit jarretier, celle qui sera ainsi trouvée sera condamnée au fouet. Après le dit cri mis à exécution, soit ordonné que tous les déserteurs sans distinction soient condamnés à avoir le nez et les oreilles coupées, à être marqués de 2 fleurs de lys aux 2 joues, à être rasés et enchaînés par l'exécuteur de la haute justice pour être ensuite condamnés en prison de la plus prochaine ville où la chaîne passée pourrait être attachée et menée aux galères.
Passionnant, mais tout d'un coup, là, je me sens attirée par tout ce qu'il y a autour de nous. On est chez toi, entourée d'énormément de photographies qui sont à la fois des photographies réalisées par toi, mais aussi des images d'archives familiales et aussi beaucoup de coupures de journaux. Et j'ai un sentiment un petit peu étrange parce que cette pièce, elle me semble absolument saturée d'images. Tu les as épinglé, accroché sur des pans entiers de la pièce dans laquelle on se trouve. Et ça me fait penser quand même à... Alors bien sûr, c'est pas, je sais que c'est pas ton cas, mais ça me fait penser à ce syndrome que je connaissais pas... dont je connaissais... En fait, j'ai découvert qu'il y avait un nom pour ça assez récemment. Le nom qu'on a donné aux gens qui accumulent compulsivement des objets chez eux. On appelle ça le syndrome de Diogène. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais ce syndrome, il conduit certaines personnes... Alors c'est souvent des personnes assez âgées, mais pas seulement. Ça les amène parfois à condamner complètement l'accès à certaines pièces de leur maison, obstruer des passages. Et on se rend compte que ça les isole socialement. Elles ont souvent finalement assez peur de sortir de chez elles. Les objets les engloutissent, les absorbent complètement et les marginalisent socialement. Alors évidemment, on n'est pas dans ce cas-là, mais je trouve que cette saturation d'images, elle révèle aussi quelque chose qui m'intéresse de ton travail.
Oui, bah, c'est vrai qu'il y a une contamination de l'espace par les images, quoi. C'est vrai. Mais bon, parce que ça fait longtemps que je vis ici, donc j'ai accumulé. Mais bon, c'est vrai, uniquement dans cette pièce, je suis heureusement pour moi assez loin du syndrome de Diogène. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est très dur pour moi de jeter et c'est plus facile de garder, quoi. Et notamment de jeter des images. J'ai vraiment du mal à jeter des images. Je leur prête toujours une dimension magique. J'ai l'impression que de les jeter, ça va me porter malheur. Mais un peu comme la photo des yeux crevés dont je parlais du lycée dont je parlais tout à l'heure, c'est les images, les photos, bon, plus que les images, la photographie m'apparaît comme un objet de transfert quelque part. Donc c'est vrai que j'ai du mal à m'en débarrasser. Mais c'est vrai que cette pièce, dans laquelle on est, c'est un peu un refuge, quoi. C'est une grotte. Et d'ailleurs, en parlant de grotte et de syndrome de Diogène, cette idée de réclusion volontaire ou involontaire en marge du monde, ça me rappelle, je ne sais pas si tu connais, l'étrange fait divers dont André Gide s'était emparé, qui s'intitule « La séquestrée de Poitiers ». C'est un des termes qu'elle employait, c'était « ma chère petite grotte ». En fait, c'est un terme caritatique, une forme qui consiste à faire passer des noms communs comme des noms propres. C'est une forme affectueuse donnée aux objets. Ma chère petite grotte. Mais bon, l'histoire, c'est en fait une jeune femme, Blanche Monnier, qui a été séquestrée par sa mère et son frère pendant 24 ans. Parce qu'en fait, sa famille voulait la soustraire à son fiancé. Et la malheureuse a été enfermée donc pendant 24 ans dans sa chambre, obscure. La pièce n'était jamais nettoyée, les volets étaient fermés, cadenassés même. Sans lumière du jour, elle recevait des repas, mais très très frugaux, quoi. Et quand on l'a retrouvée, bon, je sais plus exactement ce qui a fait qu'on l'a découvert après 24 ans, mais voilà, elle était dans un état de saleté indescriptible et qu'elle était un peu, elle avait un peu perdu la raison, évidemment. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle s'était recréé son propre environnement sur son lit, en fait, sous sa couverture rigidifiée par la crasse et en partie les excréments. Là aussi, elle avait reconstitué une espèce de forme caverneuse, d'où le terme « ma chère petite grotte ». Elle s'était recréée un nouvel environnement, à la fois un nouvel espace sur son lit, mais à la fois un nouveau langage. Ici, il ne s'agit plus de claustrophobie, ou pas du tout de claustrophobie, mais tout au contraire de claustrophilie, c'est-à-dire le plaisir de s'extraire du monde et la dimension violente et fantasmée de cette extraction du monde.
Lundi 19 février. Tu as été si désagréable aujourd'hui à refuser ce que je t'offrais à manger. Tu n'as rien voulu aspirer. La nourriture a été gâchée. Je te sentais qui restais dans ton coin à faire ta mauvaise tête. Pour la peine, je ne te donnerai rien pendant 3 jours. Mardi 20 février. Tu profites que je ne puisse te voir. Tu ne réagis pas. Jeudi 22 février. Je m'inquiète. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas bougé, pourvu que tu ne sois pas malade. Je te parlais, mais tu ne répondais pas. Ou est-ce encore une de tes ruses pour que je t'ouvre, perverse? Mais ça ne marche pas, je ne t'ouvrirai pas. Vendredi 23 février. Le morceau de viande que j'ai glissé dans le trou hier a disparu. J'ai eu si peur que tu ne tombes malade, ma chérie. Lundi 26 février. Tu vas bien mieux. Je te vois qui bouge dans ta chambre. Je te retrouve, ma petite chérie. Dimanche 4 mars. Je suis restée auprès de toi toute la journée. Je sais que tu as tellement besoin de moi. Je te parlais à travers le trou, tu m'écoutais sagement, sans rien dire, ma chérie. Jeudi 8 mars. Ma pauvre chérie, tu vas rester seule. Je t'abandonne pour 3 jours. Ne pleure pas, chérie. Je reviens vite. Tu vas me manquer. Je ne t'ai encore jamais quitté, ça va être dur. Demain, je te glisserai de la nourriture par le trou. Lundi 12 mars. Ah, c'était fabuleux. Si ce n'était toi, je partirais plus souvent. Mais je dois m'occuper de toi, j'enrage parfois, quel poids. Tu me tiens, je me sacrifie pour toi, et tu ne le vois même pas, ingrate. Pourtant, j'étais si heureuse de te revoir. Tu m'as manqué. Vendredi 16 mars. Arrête de gémir, je t'en prie. Arrête. Dimanche 18 mars. Je suis restée dans ma chambre à travailler aujourd'hui. Assise à mon bureau, même le dos tourné, je pouvais te sentir qui m'observait à travers le trou. Parfois, je te parlais le dos toujours tourné. Mais tu ne répondais pas. J'ai aimé ce moment. Je me suis sentie si proche de toi. Lundi 19 mars. Arrête, arrête de m'observer. Je te sens sans cesse qui m'épie. Tu veux que je bouche le trou, c'est ça que tu veux? Arrête. Mercredi 26 mars. Tu ne dis jamais un mot. Je te parle et jamais tu ne réponds. Je sens que tu m'échappes, que tu es chaque jour plus lointaine. Reviens-moi. Jeudi 26 avril. Tu colles tes oreilles contre le trou et moi mes lèvres. Chaque soir, je commence à te lire un chapitre du roman que j'ai commencé. J'aime tant partager avec toi. Tu es si attentive. Tu ne dis aucun mot. Tu m'écoutes. Dimanche 28 avril. Ce soir, tu as ri à l'écoute de ma lecture. C'était un rire rauque, presque bestial. Mon Dieu, il y avait si longtemps que je ne t'avais plus entendu rire. Ton rire me manque. Pourtant, avant, nous rions tant. Samedi 4 mai. C'est ton anniversaire demain, petite, 19 ans. Lundi 6 mai. Je sais que tu aurais tellement aimé sortir le jour de ton anniversaire, mais c'est impossible, tu le sais. Tu ne peux être vue. C'est trop dur dehors. Ce n'est pas pour toi. Est-ce que je ne m'occupe pas bien de toi? Hier, je suis restée toute la journée avec toi, de l'autre côté du trou. On était bien. Mardi 7 mai. Tu n'arrêtes pas de gémir, mais je ne te laisserai pas sortir. Jeudi 9 mai. Perverse, tu as bouché le trou. Je trouverai bien un moyen de le percer. Tu ne tiendras pas longtemps dans le noir. Lundi 13 mai. Réouverture du trou. Une odeur insoutenable s'est répandue dans ma chambre. Je n'ai pu dormir de la nuit. Tu seras puni pour cela. Vendredi 17 mai. Je suis de retour. J'ai glissé mon doigt dans le trou et tu l'as frôlé. J'ai eu tellement peur que tu ne sois plus là. Dimanche 26 mai. Tu es un monstre, Alice, et jamais personne ne pourra te regarder en face. Lundi 27 mai. Tu es de plus en plus difficile. Tu demandes chaque jour plus d'attention. Je passe près de 3 heures par jour auprès de toi. Jeudi 30 mai. Je t'entends qui m'appelle. Je ne te glisse plus de la nourriture que quand tu dors. Pas envie de te voir. Vendredi 31 mai. Tout ce qui arrive est de ta faute. Si tu n'étais pas là, j'aurais une vie normale et rien de tout cela ne serait arrivé. Parfois, je te déteste. Poison. Lundi 3 juin. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas bougé. Parfois, je me demande si tu es réellement derrière ce trou.
Voilà, nous nous retrouvons là, donc, dans mon refuge, avec ces centaines d'images autour de nous, toutes ces histoires qui m'entourent et qui m'assaillent, qui apparaissent et qui s'évaporent, et que j'ai partagées avec toi pour un instant aujourd'hui. On va se quitter, et voilà, reste à savoir ce qu'il faut croire. Les fables ineffables par Agnès Geoffrey. Je remercie Vanessa Desclos pour sa participation à l'entretien, Benjamin Hamant pour ses compositions sonores, Agnès Chekroun pour la lecture de Sainte Agnès, Romain Pérignon pour la lecture de La Voix fantôme, John Ayrton pour la lecture de La jeune fille qui tremble, Jacques Maisonnier pour la lecture des ordonnances royales et Sophie Delpeux pour la lecture du journal intime. Groupe de réalisation Pascal Bénard et Lionel Quentin. Coordination Chouchane Djergaïan. Productrice-coordinatrice Irène Omelianenko. Cet atelier de création radiophonique est une commande de France Culture et du Centre national des arts plastiques.
Jusqu'à la fin de l'année, le Centre photographique d'Île-de-France présente une exposition consacrée à Agnès Geoffrey.
Cet entretien est disponible sur le site de France Culture et celui du CNAP. La semaine prochaine, dans Création On Air, à 23h, mercredi, Cher du Bagne, par Éric Cordier et Nathalie Salle. Jeudi, Empreinte sur le chemin des dames, par Jean-Marie Porcher, Isabelle Souquet et Lionel Quentin. Il est l'heure des nuits de France Culture, avec Philippe Garbi.